Pour l'instant, la dissuasion nucléaire, on va le voir avec vous, c'est un concept qui est fait pour rassurer, alors qu'avouons-le, n'a rien de rassurant. Pour comprendre, Pierre, on va donc voir comment ça a été, cette dissuasion nucléaire, comment elle s'est construite dans le temps. Comment est-ce que tout cela a commencé ?
Eh bien, tout simplement par cette déclaration au cœur de l'été 1945 par le président américain Harry Truman. Nous sommes le 6 août 1945 et le monde apprend qu'il est entré dans l'ère nucléaire avec le largage sur Hiroshima d'une bombe à la puissance jamais atteinte.
With this bomb, we have now added a new and revolutionary increase in destruction to supplement the growing power of our armed forces. It is an atomic bomb.
Une bombe atomique qui, dit le président américain, représente une augmentation révolutionnaire de la capacité de destruction. Le message est clair, les États-Unis possèdent l'arme ultime.
Ouais, ce qui leur confère évidemment une supériorité militaire sur quiconque. Se pose alors la question, Pierre, que doit-on faire d'une arme qui, utilisée avec intensité, aurait la faculté de détruire l'humanité ?
Et si l'Amérique mettait le nucléaire, civil et militaire, à disposition de toute l'humanité ? Juste après ce terrible carnage de la Seconde Guerre, certains rêvent, à l'image d'Einstein, d'un gouvernement mondial qui, sous l'égide de l'ONU, contrôlerait effectivement la puissance nucléaire en empêchant son utilisation à des fins destructives. Mais le rêve ne dure pas, parce qu'entre les États-Unis et l'Union soviétique, la méfiance est trop grande. D'un côté, les Américains n'ont guère envie de partager leurs secrets scientifiques, et de l'autre, les Russes ne souhaitent pas laisser aux Américains l'avantage stratégique de la bombe atomique. Bref, pas d'illusion, le monde est entré dans la course aux armements nucléaires.
Oui, et dès 1949, les Soviétiques procèdent avec succès à leur première explosion nucléaire. Les deux superpuissances sont désormais à égalité et peuvent se détruire l'une l'autre.
Et oui, et le troisième grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne, comprend que son lien privilégié avec les États-Unis a des limites. Malgré l'apport de ses savants au projet Manhattan qui a mené à la mise au point de la première bombe atomique, pas question pour l'Amérique de partager sa technologie avec ses alliés. Les Britanniques développent dès lors leur propre programme nucléaire et se dotent de l'arme atomique en 1952. L'idée qui prévaut, c'est de ne dépendre de quiconque, en l'occurrence ici des États-Unis, pour se sentir protégé par l'arme la plus puissante qui existe. Quelques années plus tard, le général de Gaulle ne dit pas autre chose quand il justifie la mise en place du programme nucléaire français.
Non pas une puissance destinée à attaquer ou à dominer personne, au contraire. Une force qui, dans le monde très dangereux où nous nous trouvons, doit nous donner la capacité de dissuader les autres de nous attaquer jamais, c'est-à-dire de nous donner la plus grande chance de paix qui soit possible.
Voilà, De Gaulle qui utilise ici explicitement le terme de dissuasion nucléaire. L'idée est donc de démontrer sa force à un éventuel adversaire pour le dissuader de vous attaquer.
Et c'est tout le paradoxe, hein. L'arme atomique, symbole de mort et de destruction, se voit ainsi associée à l'idée de protection. Posséder la bombe devient une garantie de paix. Se construit ainsi l'image rassurante du parapluie nucléaire dont il est tellement question ces temps-ci quand le président Macron propose d'abriter sous son parapluie d'autres pays européens. Soulignons qu'avec ses sous-marins et ses avions, la France contrôle à 100% son arsenal nucléaire, alors que la Grande-Bretagne, qui n'a que les sous-marins pour ses missiles nucléaires, est aussi dépendante des États-Unis pour la fourniture de ses missiles.
Ouais. Il y a tout de même un souci, Pierre, si tout le monde dispose de l'arme atomique, elle ne constitue plus un avantage stratégique.
Ouais, c'est tout le souci, hein. Les USA, l'URSS devenue la Russie, la Grande-Bretagne, la France et puis la Chine. À la fin des années 60, l'heure est à la détente, alors on signe le traité de non-prolifération des armes nucléaires. L'idée étant de limiter le nombre de pays détenteurs de l'arme atomique. Depuis lors, tout de même, quatre autres pays s'en sont dotés. L'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord. Autrement dit, à l'image du parapluie, se superpose aussi celle de l'équilibre de la terreur. Et en disant cela ce matin, équilibre de la terreur, je sens que je plombe un peu l'ambiance.
Un peu, oui.
Alors pour décompresser, rien de tel que la Java, en l'occurrence la Java des bombes atomiques chantée par Serge Reggiani, les paroles sont de Boris Vian.
Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombe, je n'ai pas beaucoup plus lâche, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'a un rayon d'action de 3,50 m.
Et dans la suite de la chanson, le génial inventeur prend conscience que le faible rayon d'action de la bombe importe finalement peu, car finalement la seule chose qui compte, c'est l'endroit où elle tombe. Oui, je sais, c'est drôle. Et c'est pas drôle.
Non, c'est pas drôle. Effectivement, bon, c'était un œil dans le rétro à la fois rassurant et pas rassurant. Vous l'avez dit dès le début. Merci beaucoup.